Bonjour. Alors là, on va faire un saut quelques années en avant. On va se mettre à peu près au mois de janvier 79, hein, c'est presque 7-8 ans. Et j'ai le plaisir vraiment de vous présenter un status report de cette expérience qu'on appelle ENA3 ou les arts entre nous. Alors vous savez qu'on prend déjà des données depuis à peu près un an. Et c'est ces premiers résultats qui vont être montrés à ces SPSC que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, on est en train de regarder des paires de 10 muons. Et comme dira Jacques Lefrançois un an plus tard, mais il ne le sait pas encore, c'est à la conférence de Madison, c'est qu'on va étudier les processus Drellian parce qu'il est beaucoup plus facile pour nous de comprendre de façon même qualitative la production des paires de 10 muons plutôt que des hadrons à très grand PT qu'on ne sait pas très bien calculer. Donc, Drellian, j'ai mis la photo ici parce qu'en fait, je pense toujours que c'était toujours une personne. En fait, c'est deux personnes. C'est Drell et Gall. J'ai corrigé quelques années après. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ces paires de 10 muons? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que déjà, on a une expérience au début de la décennie, hein, en 73, qui obtient ces spectres-là. Bon, ces spectres, déjà, il y a quelque chose de bizarre. Il y a cet épaulement autour des trois gèves. Parenthèse, vaut mieux avoir une expérience avec beaucoup de résolution. Et puis, ces spectres qui tombent de façon exponentielle au-delà des trois ou quatre gèves. Donc, on essaye de comprendre ça. Bien sûr, en 1974, on s'aperçoit qu'autour des trois gèves, c'est bien les gypsies, et beaucoup plus loin, on trouve les ypsilon à Fermilab. Mais aujourd'hui, en 1979, c'est la partie au-delà des quatre gèves qui va nous intéresser. Et pourquoi? Parce qu'on va, pour la première fois, appliquer, si vous voulez, les modèles des partons en dehors du deep inélastique. On va utiliser, on va comprendre, essayer de mesurer les fonctions structures qui ont été mesurées par les expériences bien connues, CDHS par exemple, et on va essayer de faire ça pour des hadrons qui ne sont pas stables, tels que les pions ou même les protons, avec des interactions hadroniques. Alors voilà le processus de Drellian, où on produit deux paires de leptons, par une interaction quark-antiquark. Et en fait, vous voyez, entre les protons et l'antiproton ici, où c'est chacun des partons qui interagit, et on a un certain nombre de prédictions qu'on sait faire aujourd'hui. Parmi ces prédictions, il y a on voit bien les scalings, on voit bien, on sait calculer la section efficace, on pense qu'il n'y a pas des moments intrinsèques des quarks, on sait prédire une distribution angulaire, on verra que ça ne sera pas facile, et ensuite des fonctions structures. On peut mesurer les fonctions structures autrement que par les deep inélastiques. Et je vous rappelle donc la collaboration ENA3, on est passé des 11 à 20, là c'est vraiment beaucoup. Hein. Et donc ça, c'était une présentation à Morion, 79, par Jacques, et c'est l'expérience. Elle est presque franco-française. Il n'y a que les CERN, entre guillemets, en dehors de la France. Donc on retrouve l'École Polytechnique, le Collège des France, Saclay et bien sûr le LAN. Donc l'expérience, je vous rappelle en deux mots en quoi il s'agit. Il s'agit d'une expérience des cibles fixes. On a deux cibles, une cible de platine et une cible d'hydrogène. On a un aimant, des 4 Tesla, des chambres de tracking, un odoscope T3 pour observer, pour identifier les muons, et puis, comme vous allez voir au transparent suivant, deux chambres construites ici au LAL par une idée de Jacques Lefrançois qu'on appelle la M1 à M2 qui nous sert pour faire les triggers. Alors, on en profite du fait que les 10 muons des signaux posés sont balayés par l'aimant, pour pouvoir calculer, si vous voulez, les PT en faisant juste une différence entre les numéros des damiers de l'AM1 et de l'AM2. L'AM1 et l'AM2, ce sont des chambres qui sont homothétiques par rapport à la cible. C'est homothétique, ça a toujours posé des problèmes pour les Anglais. Ils n'ont jamais compris ce que ça veut dire homothétique. Et donc, avec une idée astucieuse des Jacques, on arrive à mesurer les PT dans le trigger et à faire un trigger des grands PT sur ces dimions-là. Ces chambres, elles étaient assez grandes. Vous allez voir la photo après. Elles faisaient, je ne me souviens plus, mais à peu près 5 mètres de haut. Et l'histoire qu'on m'a racontée, c'est que les chauffeurs militaires, qui, grâce à nos amis de l'X, qui a transporté les chambres au CERN, eh ben, il n'a pas suivi l'itinéraire qu'on lui avait fixé. Et il y a une chambre qui est passée sous un pont qu'il a fallu refaire un peu. Donc, sur cette photo... vous voyez, la cible, elle était ici. L'aimant qui existe toujours, qui est utilisé par... l'aimant qui a été utilisé ici, je crois, pour les tests BIM des Atlas. Deux Cherenkov qui ont été utilisés plus tard et les chambres MA2 qui se trouvaient ici. On avait aussi une autre chambre construite ici au LAL qui était une chambre à l'intérieur de l'aimant pour nous donner un point de tracking. Et cette chambre qu'on appelait la 7E2 avait la fâcheuse habitude d'osciller. Il y avait des amplis, un ampli par fil. Et il faut quand même régler les seuils de ces amplis, ce qui était un travail d'étudiant de l'époque. Voilà, donc en cette année 78, on a pris des données pratiquement depuis les mois de janvier jusqu'à pratiquement en 79. Et comme dit ici, je crois que c'est Jacques Boucreau qui n'est pas là aujourd'hui, les triggers étaient... on a fini de prendre des triggers ce matin. Ce matin de janvier 1979. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Eh bien, vous voyez ici qu'on est passé à une étape supérieure par rapport à ce qui avait été fait. On a 160 000 événements psy avec un faisceau incident de 280 GeV. On a une cible de platine, on a une cible d'hydrogène. On commence vraiment à faire de la très belle physique avec les dimions. Eh bien, je voulais juste vous montrer les performances des détecteurs et je voulais vous montrer ces plots qui nous a causé plusieurs, je ne dirais pas ennuis, mais vous avez une cible de platine, mais vous avez un damp des vents pour arrêter les pions. Alors, est-ce qu'on sépare bien les vertex? Ça, c'était la bonne question. Est-ce qu'on maîtrise les multiples scattering? Donc là, vous voyez très bien qu'on voit très bien les événements qui viennent de l'absorbeur des hadrons et les événements qui viennent du platine et peut-être un peu des quelques événements d'hydrogène. Mais en même temps, on voit ici les spectres des masses tels qu'on les voit, tel qu'on a presque online, avec 150 000 psi dans les plots, et les rho oméga phi qui devient le sujet plutôt des thèses d'étudiants à l'époque. Donc, Daniel Descamps, il va présenter ses résultats au SPSC trois mois plus tard, où il va montrer des résultats sur les psi, sur les psi primes, et les spectres de masse pour des pions incidents, pour des kaons, des protons, et même des antiprotons, qui étaient notre fierté, comme vous allez voir. Et donc, voilà notre spectre des masses, où on voit un superbe pic de psi, on voit les continuums sur lesquels on va s'intéresser, et même l'ypsilon. Et ça, c'était des paires des myons de signes opposés, et on regardait toujours les paires des myons de signes, des mêmes signes, pour estimer notre background. La cinématique, comment fait-on après pour remonter aux fonctions structure? On calcule la fraction du moment apporté par les partons X1 du projectile et de la cible. Et à partir des variables taux et X mu, on arrive à remonter aux sections efficaces. Alors, au passage, on teste les scaling. Donc, vous voyez bien qu'entre 200 GeV et 280 GeV, on obtient la même section efficace en fonction des racines des taux et on arrive au fameux facteur K. On est capable, à partir de des fonctions structures qui ont été mesurées par CDHS avec des neutrinos, on est capable de calculer si les sections sont efficaces et de comparer à nos données, à nos données. Alors, la première observation qu'on a faite très très rapidement, c'est que si on utilise les résultats des CDHS et on compare à nos données, eh ben, il y a un facteur 2 des plus. On a deux fois plus de données, des dymions, que ce qui était prévu par CDHS. Alors, il est évident qu'on a contrôlé beaucoup notre acceptance. Ça, c'était un travail des fourmis, vérifier que les programmes d'acceptance étaient les bons, étaient la bonne acceptance. On a vérifié, grâce à notre cible des platines et l'hydrogène, les événements d'hydrogène, la dépendance en A de la cible, on a fait toutes sortes de tests possibles, et bien on trouve que notre facteur K, ici, est différent des 1, et on pense que c'est des corrections QCD. Alors, on a commencé à penser ça lors d'un meeting avec des théoriciens à Bourgogne, auquel moi-même je n'ai pas assisté. Donc, NA3, c'était une collaboration très vivante et très agréable. Et donc, lors de ce meeting qui a marqué beaucoup les esprits, même il y a une semaine, Roberto Petronzio m'en a parlé, parce qu'on s'est rencontrés au CERN, on a réalisé que ce que nous observons ici, c'est des corrections QCD, et ce sont des corrections au modèle naïf des Drellian que je vais vous montrer après. Alors, une autre façon de voir ça, c'est en regardant le nombre d'événements en fonction de la masse, et vous voyez bien qu'aussi bien en proton ou même en antiproton, on a ces facteurs K qui étaient de l'ordre de 2,4-2,5 pour nous. Et c'est là qu'on a réalisé, et les théoriciens se sont mis à travailler, qu'en fait, la section efficace naïve qu'on obtient par le Drellian, on doit la corriger avec tous ces graphes des corrections QCD. Et les théoriciens calculent dans le meilleur des cas 1,8 fois la section efficace de Drellian. Et comme vous voyez ici, nous, notre facteur K, il serait de l'ordre de 2,2. Il reste beaucoup des sujets à traiter pour ces dymions. Il y a un grand débat sur la dépendance en A. Nos collaborateurs, nos amis américains ont des résultats un peu différents des nôtres, mais je pense qu'ils ont eu faux. Il y a la distribution angulaire que je ne présente pas aujourd'hui parce qu'il y a des problèmes d'acceptance. Il faut absolument comprendre les trous dans l'acceptance. Il y a les problèmes du KT intrinsèque, mais a priori, ça ne posera pas des problèmes, et plein d'autres. Et en même temps, il y a une nouvelle expérience qui va être dessinée, qui s'appelle ENADIS, qui va avoir toute la statistique 10 fois plus ou 20 fois plus la statistique, qui, a priori, pourra répondre à beaucoup d'autres problèmes. Et, comme vous savez, en ces années 80-81, on a aussi un nouveau projet. Cette fois-ci, on a plutôt envie d'enlever notre dump, grave erreur probablement, et d'aller observer des photons directs. Ces photons, les photons directs, ils peuvent être produits par ces graphes ici que vous voyez. Et l'idée derrière tout ça, c'est que si on arrive à observer des photons directs, eh bien, peut-être qu'on arrive à mesurer la fonction structure du gluon dans le proton, ce qui était quelque chose que le CDHS, par exemple, ne pouvait pas faire. Eh bien, pour cela, on doit équiper notre calorimètre d'une chambre à localisation des gerbes, ou alors on l'a appelé la chambre à douche. Ça, c'était Jean Badier qui l'avait nommé la chambre à douche. C'est shower chamber. Et donc cette chambre ici posée au milieu d'un calorimètre permettrait en principe de localiser les gerbes. Eh bien, on avait oublié probablement qu'il y avait ce qu'on a appelé plus tard des satellites, c'est-à-dire parfois des delta rays qui se propagent dans ces gaps et qui vont vous faire des satellites beaucoup plus loin. Et la vie était devenue beaucoup plus difficile. De la simplicité des dymions avec juste quelques problèmes de diffusion multiple, on a dû affronter l'épizéro. On ne les avait pas oubliés, mais cette fois-ci, on a dû se battre contre l'épizéro asymétrique, contre l'épizéro symétrique, Et puis, il restait une petite marge depuis zéro qu'on arrivait à revoir quand même. Et grâce à ça, on essaye de mesurer les rapports gamma sur pi 0, et qui vous voyez qui est vraiment très faible pour des PT tels que nous, on pouvait les joindre, tels que nous, on pouvait accéder. Et c'était une expérience vraiment difficile. En plus, l'ELEP est approuvé, et c'est beaucoup plus intéressant, en effet, d'aller travailler sur l'ELEP et finir cette expérience proprement avec des étudiants. Donc, ce qui s'est fait à peu près autour de 1986. Alors, je reviens au présent. Et moi, en tant qu'étudiant à l'époque, vous avez bien compris, j'ai beaucoup appris grâce à Jacques. J'ai appris, en fait, mon métier d'expérimentateur d'aujourd'hui. Et je lui en dois beaucoup. Et c'est un grand merci, Jacques, pour cette contribution, sur moi-même en tout cas.